A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther qui vous parle et comme depuis le début de ce reconfinement, on a repris les interviews à distance. Et aujourd'hui, à travers mon écran, c'est avec Benoît Hamon que j'échange. Bonjour.
Bonjour.
Benoît Hamon, qui fut entre autres ministre de l'Éducation sous François Hollande, mais aussi député, et qui fut le candidat du Parti Socialiste à la dernière élection présidentielle. Souvenez-vous, il y avait présenté l'idée de revenu universel. Aujourd'hui, il sort un livre pour déployer son argumentaire à ce sujet et on va justement commencer par définir ce qu'est le revenu universel d'existence. Donc qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce qu'il différencie de toutes les aides sociales qu'on a déjà en France ?
Ben bonjour, d'abord, ben, le revenu universel, c'est justement pas une aide sociale. Le revenu universel, il serait donc, comme son nom l'indique, c'est un revenu qui serait attribué à tous, de la naissance à la mort, quelle que soit votre situation, que vous soyez riche ou pauvre, vous seriez bénéficiaire d'un revenu dont il faut ensuite arrêter démocratiquement le montant. Moi, je propose une somme de 750 euros. Et il a les deux autres particularités, outre donc d'être universel, d'être inconditionnel, rien n'est demandé en contrepartie du revenu universel, et individuel, il est indépendant de votre situation conjugale ou familiale, qui n'interfère pas sur le fait que vous soyez bénéficiaire du revenu universel. Son principe, si on devait donner un premier argument philosophique, il est de considérer que quand on est sur Terre, on est riche ou on est riche, né NAIT, de l'héritage de nos ancêtres, qui est aussi un héritage économique. Et que selon ce principe, chaque individu doit pouvoir bénéficier d'une fraction de cet héritage laissé par nos ancêtres, un héritage sous la forme d'innovation, de progrès technique, d'un génie qui est culturel, artistique, économique. Ou scientifique, et que cet héritage, ben, s'il est divisé entre tous les individus, il permet à chaque individu de bénéficier d'un revenu qui lui est attribué. Ça tombe bien, aujourd'hui on sait mesurer dans la part de la richesse créée dans chaque pays, la fraction qui correspond justement à la rente liée à l'héritage de nos ancêtres. Donc en France, c'est à peu près 14% de la richesse créée chaque année. Donc voilà, c'est ça le principe du revenu universel.
Merci beaucoup. Je pense que c'est important, voilà, avant d'entamer vraiment la discussion, de poser les termes du débat. Et on va plonger sans en avoir l'air dans le vif du sujet. Si aujourd'hui, je ne savais pas du tout qui vous étiez, qu'on se rencontrait et que j'en venais à vous poser la question « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», qu'est-ce que vous répondriez ? Je pose la question parce que déjà, quand j'ai parlé du fait que je préparais cette interview, autour de moi, on me l'a posée. Et surtout parce que je pense qu'elle peut être l'occasion d'expliquer comment vous vous définissez, si c'est par votre travail ou pas, quel type de travail.
Écoutez, si je devais répondre sous la forme un peu classique, Benoît Hamon, c'est quoi votre activité ? Je répondrais spontanément aujourd'hui. À la fois, j'écris des livres, j'anime un podcast et je dirige une société qui... de conseils pour améliorer les bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous savez, ces entreprises qui sont non lucratives, démocratiques, les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations. Ça, c'est mon activité au jour le jour. Mais si je devais me définir qu'est-ce que vous faites, Benoît Hamon, Je pense que je suis, comme beaucoup, dans une période de ma vie où, vous savez, j'aime bien cette image de la statue de Glaucus qu'avait évoqué Rousseau, c'est-à-dire qu'on est avec nos vérités, nos combats, nos engagements, quelque part une forme de pureté qu'on va garder souvent dans l'enfance, l'adolescence, et puis ensuite, à force de sédiments sur il faut que, de conventions, de préjugés, d'autocensure, on se recouvre de couches de sédiments comme ça, en tout cas, Socrate et Rousseau disaient que nous font perdre un petit peu de nos vertus pour nous transformer de dieu en monstre. Alors on sera pas tous des monstres, mais je crois que c'est dans une période où justement j'essaye de faire sauter ces couches de sédiments comme beaucoup, m'ont usé, érodé, et m'ont fait perdre un petit peu de ce qui était de la pureté de mes engagements. J'essaye de retrouver un petit peu de cette jeunesse intellectuelle et spirituelle là.
Alors, je suis contente de la réponse que vous avez faite parce que mon but, c'était justement que vous ne vous définissiez pas uniquement par un poste quelconque que vous occuperiez actuellement. Parce que dans votre livre, où vous défendez le revenu universel, donc, vous dédiez tout un chapitre à ce que vous appelez la bataille culturelle du travail. Et vous y faites notamment la distinction entre l'emploi et le travail. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi ça ?
Oui, alors ça, c'est un point important, c'est que... aujourd'hui, quand on vous dit quel est votre travail, vous allez répondre bah, j'en ai ou j'en ai pas, souvent. Selon que vous êtes au chômage, étudiant, retraité ou dans l'emploi. Pourtant, ce qu'un étudiant ne travaille pas. Bon, déjà, il y en a qui sont obligés d'avoir un emploi pour se payer leurs études, mais en réalité, ils travaillent. Est-ce qu'un retraité ne travaille pas ? Bah, si, il travaille quand il est militant associatif, quand il est donc bénévole, quand il fait son jardin, quand il est à la maison, quand il assure un travail domestique. Bref, en fait, on travaille, et on travaille même quand on n'est pas dans l'emploi. J'ajouterais même, et je le développe un tout petit peu, c'est pas le point essentiel de mon livre, mais je fais une petite parenthèse sur ce point, que même quand on est consommateur, on travaille. Parce qu'avec la transformation aujourd'hui de l'économie liée à la révolution numérique, il y a de plus en plus de tâches qui étaient faites auparavant par des employés, des gens qui travaillaient dans l'emploi, que vous réalisez vous-même comme consommateur. Quand vous imprimez vous-même votre billet, quand vous vous loguez sur une borne électronique, quand vous passez par une caisse automatique, en fait, vous faites le travail d'une femme ou d'un homme qui, auparavant, le faisait, mais contre un salaire dans un emploi. Donc, en fait, on fait du travail gratuit comme consommateur, on fait du travail volontaire et bénévole ou domestique, mais le travail, ce n'est pas seulement l'emploi. Et c'est ce qui m'intéresse parce que, fondamentalement, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de savoir si il ne serait pas légitime que la société reconnaisse que ce travail-là, qui est un travail gratuit et qui crée du lien social, peut trouver une forme de reconnaissance à travers le revenu universel. Je vous ai donné une première légitimité tout à l'heure à travers le fait que nous naissions riches de l'héritage collectif de nos ancêtres et que rien ne justifiait qu'une minorité s'accapare le génie collectif et donc public qui a été celui de nos ancêtres, qui justifie le revenu universel. Puis d'autre part, il y a aussi le fait que le travail, ça n'est pas que l'emploi et qui peut donc justifier aussi l'existence d'un revenu universel.
Donc là, vous avez parlé du travail gratuit du consommateur, mais il y en a d'autres, il me semble ?
Oui, ben, il y a le travail domestique. Qui va dire que quand on se passe du temps avec ses enfants, notamment on l'a vécu pendant le confinement, à assurer des missions d'éducation pour soutenir des profs qui le faisaient à distance et qui nous demandaient donc une collaboration. Hein. Collaborer, c'est bien co-travailler, hein, étymologiquement. C'est du travail. Quand on fait le ménage à la maison, qui va dire que c'est pas du travail ? Pourquoi est-ce qu'on parle de la double journée de travail la plupart du temps pour les femmes ? C'est bien parce qu'il y a le travail dans l'emploi et souvent l'essentiel du travail domestique qui explique la charge mentale. La charge mentale, c'est le produit d'un surcroît de travail, de pression. Donc ça aussi, c'est du travail. Être bénévole dans une association, c'est du travail. Alors, c'est volontaire, on est content de le faire. Je ne dis pas que le travail, ce n'est pas que de la peine, mais c'est du travail. Et voilà, toutes les formes de travail qui peuvent exister, mais qui ne sont pas reconnues aujourd'hui dans la société parce que, en théorie, elle ne crée pas de richesse économique. Elle ne crée que du lien. Mais le lien social, c'est aussi de la richesse économique derrière. C'est ce que j'essaie de démontrer dans ce livre.
Vous avez soulevé le sujet de la double journée de travail des femmes. Effectivement, aujourd'hui, la majorité de ce travail domestique gratuit donc, est encore effectué par des femmes. Moi, j'ai été surprise de ne pas vous voir davantage développer en fait, justement, la mesure d'égalité ou pas que pourrait représenter ce revenu universel en matière de meilleure répartition donc, de ce travail domestique.
Oui, mais justement, j'avais. Alors, c'est délibéré. Pourquoi ? Parce que je ne voulais surtout pas qu'on fasse le lien avec ce que la droite et l'extrême droite défendent comme le salaire maternel. Vous savez, cette idée que la fonction des femmes, c'est la reproduction, l'éducation des enfants, et donc qu'elles devraient rester à la maison en contrepartie d'un salaire. Moi, ce n'est pas de ça dont je parle. Je pense qu'il faut reconnaître l'existence de toutes les formes de travail, que le revenu universel peut venir reconnaître l'existence de ce travail, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de répartition des tâches qui voudrait que, parce que le revenu universel existe, il devrait accélérer ce principe selon lequel, aux uns, la production de richesses dans l'entreprise, et aux autres, l'éducation des enfants et le travail domestique. Donc, première remarque. Ensuite, j'évoque en creux le fait que, pas en creux, alors d'abord, j'évoque le fait que le revenu universel est un instrument d'autonomie et d'émancipation. Et le but, c'est que cette autonomie et cette émancipation, elles se fassent par rapport à l'emploi, mais aussi par rapport à toutes les autres formes d'aliénation, dont le patriarcat. Je veux dire, j'intègre ça dans ma propre réflexion. Je devais prendre un exemple, un des exemples qui concerne particulièrement les femmes, c'est le fait que l'essentiel des métiers, par exemple, du soin ou des services à la personne sont des métiers féminins, en tout cas occupés par des femmes. Ce sont, comme par hasard, les métiers parmi les plus mal payés. Pourtant, ce sont des métiers fondamentaux pour nos sociétés, puisque dans le domaine de la prise en charge de la dépendance, de la prise en charge du handicap, ces métiers dits du care, du soin, de la sollicitude, sont indispensables au fonctionnement de nos sociétés. Eh bien, que changerait pour ces femmes l'existence d'un revenu universel ? C'est qu'elles ne seraient plus obligées d'accepter un salaire de misère pour subsister, ce qu'elles acceptent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Le revenu universel leur offrirait ou la possibilité de passer à temps partiel, ou la possibilité de peser sur leur employeur pour qu'ils changent les conditions de travail parce qu'elles ne seraient plus dépendantes de leur seul salaire pour vivre. Elles auraient leur salaire plus 750 euros de revenu universel. C'est donc un outil d'émancipation, d'autonomie. Et je crois que c'est un des instruments aussi par lesquels les femmes, mais pas que, mais tous celles et ceux qui aujourd'hui sont un peu prisonniers d'une condition sociale qu'ils n'ont pas choisie, c'est le moyen par lequel ils pourraient justement s'arracher à cette condition sociale-là.
Mmh. Justement, à ce sujet, vous dites que c'est un levier pour retrouver du pouvoir dans l'entreprise, dans l'emploi, mais ça, c'est à condition d'avoir un emploi. Parce que vous dites aussi dans votre livre que le nombre d'emplois disponibles va probablement diminuer à cause du progrès technique. Donc votre solution à ça, c'est le revenu universel. Mais est-ce qu'en fait, en se contentant de donner 750 euros par mois à tout le monde, au lieu de se démener pour préserver et créer des emplois, on ne va pas juste augmenter le nombre de personnes pauvres ?
Alors, l'argument sur la révolution numérique et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, le rythme des innovations est si rapide qu'en fait, on ne peut plus voir s'appliquer, c'était la règle qui avait été énoncée par l'économiste Schumpeter, qui disait que grâce à l'innovation technologique, en fait, on détruit bien sûr des emplois, comme c'est passé dans le passé, mais on en crée beaucoup plus qu'on en détruit dans de nouveaux secteurs. Là, ça va tellement vite que c'est comme si tous les mois, on inventait l'électricité ou le télégraphe. Ce qui fait que la société n'a pas la capacité à absorber ces innovations si intenses pour s'adapter à celles-ci et former aux nouveaux métiers. Résultat, la machine non seulement remplace l'homme dans les métiers physiques, remplace leurs bras, mais remplace aussi leur tête. Nous avons maintenant de plus en plus de métiers du management, dans le journalisme, donc intellectuel, dans le domaine des avocats, juristes, où ce sont des algorithmes, des machines qui produisent des notes juridiques, produisent des articles, etc. Donc on voit bien que tout est en train de changer. Donc ça ne va pas supprimer tous les emplois, mais c'est clair que ça va en supprimer en partie. Cet argument de la révolution numérique, c'est même pas un argument, c'est un fait. Il plaide à la fois pour le revenu universel, mais il plaide aussi pour qu'on mette à contribution la machine dans les entreprises où celle-ci a remplacé l'homme et que l'entreprise est plus riche une fois que la machine a remplacé l'homme parce qu'elle aura économisé les salaires des gens et économisé leurs cotisations sociales. C'est la fameuse taxe robot ou la cotisation sur la richesse créée par les machines que je souhaite que l'on crée. Bon, maintenant, je donne des arguments techniques. La vérité, c'est que vous dites, oui, mais 750 euros, moi, je pose ça comme une base à la discussion. 750 euros, c'est déjà presque une fois et demie supérieur au RSA. Ça ne se substitue pas à d'autres allocations qui peuvent être pour une partie des allocations logement, pour une partie des allocations de compensation du handicap. Donc, soyons clairs, 750 euros, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que la personne qui a un petit salaire, elle a le SMIC, par exemple, 1150 euros plus 750 euros. Je veux dire, c'est quand même, elle augmente son salaire de plus de 50% son revenu. Donc, pour elle, ça change beaucoup de choses. Donc, c'est toujours en plus. Donc, on raisonne sur le fait qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté est au-delà de 1000 euros en France. Et c'est vrai que le revenu universel tel que je le propose, il est à 750 euros. On peut imaginer qu'il monte avec le temps. Mais de toute façon, d'abord, soyons clairs, le revenu universel, on ne pourra pas le mettre en œuvre en 5 ans. C'est un peu comme la sécurité sociale. Je veux dire, on en est encore à améliorer 70 ans après sa création ce que couvre la sécurité sociale en matière de prévoyance quand on est à la retraite, en matière d'assurance maladie. Et on est passé de 0 à plus de 30% du PIB, donc de la richesse créée, qui est consacrée à ces dépenses-là. Donc on voit bien que c'est une montée en puissance. Moi, je considère que c'est le nouveau principe vers lequel il faut tendre à raison de la transformation de nos sociétés, de nos économies, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, le montant, c'est indicatif, c'est moi ma proposition. Deux, ça couvre pour partie le RSA, ça le remplacerait, par exemple, mais ça l'augmente singulièrement, déjà, pour commencer. Ça ne couvre pas toutes les allocations sociales qui existent, c'est à discuter. Alors, je vais en dire une que ça couvre intégralement, c'est, par exemple, ça remplace les allocations familiales. Puisque si le revenu universel et de la naissance jusqu'à la mort, ça veut donc dire de 0 à 18 ans, vous recevez aussi un revenu universel, alors qui n'est pas du même montant. Moi, je propose qu'il soit de 300 euros par enfant, répartis de quelle manière ? 200 euros qui vont aux parents par mois, en remplacement des allocations familiales. Vous avez un enfant, c'est 200, vous avez deux enfants, c'est 400, vous avez trois enfants, c'est 600 euros, et 100 euros qui sont immobilisés par mois, donc, qui sont immobilisés sur un compte qui sera géré par la Caisse des dépôts et des consignations. Elle le fait déjà pour les enfants artistes qui travaillent et qui ont un compte là-bas et qui est disponible pour eux à l'âge de leurs 18 ans. Et l'idée, c'est que 100 euros par mois pendant 18 ans, ça vous fait un capital d'émancipation qui, à votre majorité, plus de 20 000 euros, vous permet ou de partir en voyage, ou de faire une formation, ou de vous payer des études, que sais-je encore, ou de compléter un apport pour accéder à un logement. Bref, c'est le moyen de pouvoir ne pas partir avec rien, notamment pour ceux dont les parents sont évidemment les plus modestes et n'ont pas les moyens de leur payer les meilleures études ou la meilleure entrée, finalement, insertion sociale, quoi. Donc voilà, donc c'est, j'insiste là-dessus, hein, c'est le revenu universel, il est vraiment un moyen d'éradiquer la pauvreté. Déjà parce que tous les enfants auront ça, parce que jeunes, quand on rentrera sur le marché du travail, on ne sera pas obligé, par exemple, de travailler pour se payer des études. Ça change tout quand même, ça. Vous vous rendez compte, il y a 300 000 emplois étudiants aujourd'hui, je crois, ou 400 000. Ben, ces emplois, pour une grande partie, seront libérés, ce qui libérera donc de l'emploi pour d'autres. Donc, bon, ouais, c'est quand même... alors, j'aime pas le mot... je me méfie du mot changement civilisationnel, mais je crois profondément que le revenu universel, dans le rapport au travail ou à la représentation de la richesse, c'est un vrai changement civilisationnel. Et ne serait-ce que... pourquoi est-ce que on peut parler de changement civilisationnel ? Parce que c'est une rupture assez comparable au passage entre l'Antiquité et le christianisme dans le rapport au travail. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, le travail pour la subsistance était en valeur moins important que l'amitié, l'accès à la connaissance, le divertissement éducatif, en quelque sorte, qu'on appelait le scolé. Et l'absence de scolé s'appelait la scolia, c'était le travail pour subsister, je suis obligé de bosser pour travailler, quoi. Je suis obligé de travailler pour vivre. Ce qui est évidemment par lequel on peut s'épanouir aussi. Je ne dis pas qu'on ne s'y épanouit pas, mais c'était conçu comme ça. Et avec le christianisme, ça s'est inversé. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que travailler, dompter la nature, la domestiquer, c'était servir Dieu, honorer Dieu. Et au point même, d'ailleurs, avec le protestantisme, que le mariage du christianisme et du capitalisme a donné les sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et alors, ça bouge. C'est intéressant, parce qu'on voit que avec le pape François, l'Église catholique est en train de revoir et le rapport à la nature et le rapport au travail. Mais je pense que c'est ce changement-là qu'il faut opérer, c'est-à-dire revaloriser les temps qui ne sont pas liés à la production de richesses économiques, c'est-à-dire au fait de faire gonfler le PIB. Et c'est pas pour les nier, il y aura toujours un PIB, mais il faut pas que nos vies tournent autour du PIB. Quoi, voilà.
Le PIB, donc.
Je fais grossièrement, hein, pardon, je vais vite. Hein.
Oui, oui, il n'y a pas de souci. Juste pour rappeler, le PIB, donc le produit intérieur brut, hein, la mesure de la richesse produite en France. Donc, on parle énormément de travail. Jusque-là, je vous ai posé la question dans le sens du est-ce qu'il y aura encore assez de travail pour que les gens puissent compléter ce revenu universel ? Mais en fait, il y a beaucoup de critiques qui posent cette question dans l'autre sens. Est-ce qu'un revenu universel, ça ne va pas décourager les gens de travailler, à l'inverse ?
Alors ça, c'est effectivement le premier argument qui montre qu'en fait, les obstacles les plus difficiles à vaincre sont les obstacles qui sont des obstacles culturels. Dans les faits, c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'aucune étude ne montre ça. Aucune expérimentation du revenu universel, aucune expérience que vous pouvez faire vous-même. Prenez votre famille, vous le demandez. Si vous avez 750 euros par mois, qui arrête de travailler ? Personne ne va vouloir arrêter de travailler. C'est rare. Il y a peut-être dans les nouvelles générations des gens qui réfléchiraient. Pourquoi ? Parce que l'expérience qu'ils ont du travail n'a rien à voir avec celle de leurs parents, encore moins de leurs grands-parents. On a moins de contrats de travail, on a beaucoup plus de précarité. Et donc on conçoit que la vie va être moins linéaire qu'elle ne l'était auparavant. Mais bon, il y a quand même assez peu de personnes qui disent « Non, non, j'arrêterai de travailler. » Donc, quand on a expérimenté le revenu universel, à chaque fois, on a pu montrer que ça n'était pas il n'y avait pas une bascule vers l'inactivité au sens « j'arrête d'avoir un emploi ». Bon, ça encore, c'est vieux comme, comme le monde, où on s'est toujours méfié des vagabonds, des indolents, de ceux qui étaient parfaitement capables de travailler. Le Moyen-Âge abonde de mesures contre le vagabondage. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de travailler et ils n'ont pas le droit à la charité parce qu'ils pourraient très bien travailler et en fait, ils se noient dans l'indolence et la paresse. Donc tout ça, c'est vieux comme le monde. Et vous interrogez aujourd'hui beaucoup de Français modestes, ils vont avoir ce réflexe. Dire « Oui, mais attendez, si vous faites ça, il y a tous les autres qui vont arrêter de bosser. » En général, c'est jamais eux. C'est toujours tous les autres. Et quand, chaque fois que vous interrogez quelqu'un, il vous dit « C'est les autres qui vont arrêter de bosser, mais jamais lui. » Donc, ce qui montre bien que, quelque part, tout ça ne fonctionne pas. Alors, il y a toujours des gens qui profitent du système et on peut toujours imaginer. Si on commençait à construire les règles d'une société sur la manière dont elles sont détournées, bon, bah, alors à ce moment-là, évidemment, c'est l'horreur, quoi. Mais moi, j'ai pas une vision pessimiste de l'humanité, au contraire. Et donc, bon, il faut réussir à vaincre cet obstacle culturel-là qui est le plus difficile à vaincre et surtout qui est entretenu par une grande partie de la classe politique qui n'arrête pas de le répéter, quoi. Écoutez Wauquiez, il parle du cancer de l'ancistanat, toute la droite, toute l'extrême droite, une grande partie de la gauche sociale libérale dit ça. Et je vous ai... Bon, et puis alors, branchez-vous sur CNews, vous êtes sûr d'avoir dans la nouvelle télé d'extrême droite ça tous les jours, quoi. Parce que... mais tout ça, c'est... pardon de le dire, c'est un tissu de conneries qui ne repose sur rien.
D'où cette bataille culturelle. Dans votre livre, vous parlez aussi du revenu universel comme une solution à la course au productivisme et à la croissance. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous voulez dire par là ? Ça fait partie en fait des arguments écologiques presque que vous déployez pour ce revenu universel.
Qu'est-ce que change fondamentalement le revenu universel ? En gros, est-ce que cela peut être un instrument pour faciliter la transition écologique. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai essayé de travailler, de réfléchir, y compris d'ailleurs en moi-même en n'ayant pas toujours de certitude au départ de mon travail. Hein. Je ne suis pas arrivé en me disant « il faut que j'arrive à démontrer que le revenu universel, c'est bon pour la transition écologique ». Mais qu'est-ce que cela change, me semble-t-il ? D'abord, je pense que la transition écologique, ça repose sur des investissements publics qui réorientent la manière dont on crée de la richesse et une richesse qui ne soit pas, dont les impacts ne soient pas négatifs sur le plan écologique, de la biodiversité, du climat, bon, sur une transformation de la manière dont les entreprises produisent, tout ça est important, mais que nous, comme citoyens et comme consommateurs, on a aussi un rôle et on a une capacité à faire levier sur, notamment, la manière dont les entreprises s'organisent et la manière dont elles produisent. Le revenu universel, il vous donne 750 euros de plus par mois. C'est pour beaucoup de citoyens la possibilité d'acheter différemment et surtout de choisir. Aujourd'hui, beaucoup de ménages n'ont pas d'autre choix que de s'alimenter, que de s'équiper en biens électroménagers, que de s'habiller dans les rayons de l'économie low cost. L'économie low cost, c'est quoi ? C'est l'illusion de l'abondance, l'illusion des signes extérieurs de richesse, mais avec des produits de mauvaise qualité nutritive, de mauvaise qualité textile, de mauvaise qualité en général. Impact environnemental dégueulasse, impact social dégueulasse. Pourquoi ? Parce que c'est fabriqué dans des ateliers en Asie, ça vient de très loin, les gens sont mal payés, bref. Donc, on entretient là cette fiction de l'abondance et de la richesse ou des signes extérieurs de richesse à travers l'économie low cost. Beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que de se diriger vers ces produits à petit prix, mais de faible qualité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un petit salaire. 750 euros en plus, ça vous donne le choix. Et le choix de passer d'une alimentation moyenne ou mauvaise à une alimentation bio. Le choix de prendre des produits un peu plus chers, mais plus durables. Et donc, de réorienter la production des biens d'équipement d'alimentation vers des produits qui ont le juste prix. La réalité aujourd'hui, c'est que vous achetez parfois en promo, ou même pas en promo, dans des produits low cost d'alimentation, qui sont si peu chers, qu'en fait, vous devez avoir, vous vous posez la question, si c'est si peu cher, une barquette de moussaka, j'en sais rien, de 1 kilo, ben comment se fait-il ? Est-ce que c'est bien du bœuf ou c'est une autre viande que j'ai dedans ? Comment cela a-t-il été fabriqué ? Sur qui a-t-on fait, le dos de qui a-t-on fait des économies ? L'agriculteur, l'ouvrier qui transforme, le transporteur, pour que ce soit si peu cher dans mon caddie ? Et en fait, vous ne payez pas le juste prix. Et en ne payant pas le juste prix, qui permettrait de respecter l'environnement et ceux qui ont produit cela, eh bien, on alimente une spirale à la remise en cause des droits sociaux et à la dégradation de notre environnement. C'est pour ça que le revenu universel, il permet aux citoyens d'avoir le choix, et en ayant le choix, quelle est la maman qui va, si elle peut le faire, privilégier le non-bio au bio ? C'est rare. Si vous pouvez prendre des produits qui sont de bonne qualité pour vos enfants, bah, vous choisissez les produits de qualité. En vous disant, mes enfants auront moins de problèmes de surpoids, mes enfants seront plus équilibrés, moi-même aussi au passage. Donc voilà, le revenu universel, il permet aux citoyens d'être acteurs de la transition écologique. Or, on a besoin de ça aujourd'hui.
Alors, je vais me faire l'oiseau de mauvaise augure, hein, mais... Pourquoi est-ce qu'il ne se produirait pas l'inverse, en fait ? Pourquoi est-ce que les gens, avec plus d'argent, ne décideraient pas de consommer davantage ou, sur un autre plan, ne décideraient pas qu'avec le temps qu'ils ont dégagé grâce au revenu universel, il y a moins de risques à lancer une nouvelle entreprise, par exemple, et donc, je ne sais pas, à lancer une nouvelle app d'ubérisation du marché de l'emploi ?
Il y a deux questions. Alors, qui se lance, je prends la deuxième, qui se lance dans des projets qui vont les uns réussir, les autres échouer ? Moi, je n'ai pas de problème. Le sujet, c'est bien la créativité, c'est bien l'innovation. Vous verrez que cette innovation, cette créativité, elle se tournera autant vers des projets qui sont « comment puis-je m'enrichir ?» que des projets qui sont « comment puis-je être utile ?» Donc, tout ça, et moi, je trouve ça plutôt positif. Et quand on voit qu'aujourd'hui, dans les nouvelles générations de créateurs d'entreprises, la question de l'entrepreneuriat social ou du sens que l'on donne à une création d'entreprise qui ne se résume pas à quel prix vais-je la vendre pour faire quelle plus-value demain, ce qui monte, c'est aujourd'hui l'idée d'être utile sur le plan écologique et social. Donc, moi, je suis plutôt... Ça ne me dérange pas. L'autre aspect, c'est finalement, si j'ai plus de pouvoir d'achat, je ne vais pas acheter plus de Nutella, quoi, pour faire vite, ou plus de produits dégueulasses. Peut-être que certains le feront. Mais la réalité, c'est que l'offre va aussi s'adapter, notamment de produits, au fait que le pouvoir d'achat a augmenté. Et donc, la possibilité sera donnée aux gens de faire la différence. Moi, je suis à peu près certain que vous verrez l'offre en matière de produits alimentaires ou de textiles évoluer aussi en fonction de cela. Parce qu'il y aura une demande de qualité qui sera plus grande, il y aura une demande de produits durables qui sera plus grande. Moi, je sais pas, mais... Aujourd'hui, vous avez envie, quand vous achetez une machine à laver, de ne pas avoir à la changer tous les ans ou tous les deux ans. Le fait d'acheter un peu plus cher une machine à laver qui soit recyclable, réparable, avec une durée de vie de 3, 4, 5 ans, assurée, tout ça, ça participe d'abord d'une bonne gestion du budget familial. Et puis en plus, c'est un investissement qui fait sens. Donc pour beaucoup, on part souvent En tout cas, j'entends souvent des gens me dire « Ouh là là, mais ils vont faire n'importe quoi avec leurs sous. » Ah, ben, voilà. Donc les gens modestes sont irresponsables. Ils vont forcément aller boire au bistrot, ce que disaient les patrons avant. Il ne faut pas augmenter les salaires parce que sinon, les gens iront boire au bistrot, ils seront moins productifs, leur augmentation de salaire. Bon, la réalité, c'est qu'il n'y a pas plus responsable sur chacun de ses sous que quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Parce qu'il y a un usage pour chaque sou. Donc, moi, je crois fondamentalement que il peut y avoir un ensemble d'effets collatéraux qu'il faudra observer, évaluer, qui ne sont pas tous positifs. Le revenu universel, c'est pas de la magie non plus. Hein. N'en déplaise, je pense que les effets positifs seront beaucoup plus nombreux et sur le plan de la transition écologique et sur le plan des inégalités sociales que les effets négatifs.
Alors, je voudrais lever un autre frein. C'est une question en fait qu'on m'a beaucoup opposée à moi lorsque j'ai évoqué le sujet du revenu universel. C'est oui, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste des aides plus importantes destinées à celles et ceux qui en ont vraiment besoin, donc qui sont déjà dans la précarité, plutôt que de distribuer ça à tout le monde, même à ceux qui, en gros, n'en ont pas besoin.
Aujourd'hui, Bernard Arnault, il est remboursé de la même manière que vous de sa grippe à la Sécurité sociale.
Oui.
Bon, le principe, c'est quoi? On a observé que dans tous les pays dans lesquels un ensemble de droits n'était pas universel, faisait tomber le consentement à l'impôt. Or, on a besoin des impôts des plus riches pour pouvoir financer la redistribution aux plus pauvres. Donc, à force de réserver les droits pour les plus modestes, on finit par avoir de pauvres droits. Tous les pays qui ne conçoivent pas leur système de protection sociale comme universel, même si après, l'impôt se charge d'assurer la justice, hein, fiscale et sociale. Mais tous les pays dont le système est peu universel sont les pays dans lesquels, finalement, ce qui reste de droit pour les plus pauvres est pauvre lui-même. C'est-à-dire que ce sont de pauvres droits pour les plus pauvres. Donc, moi, je pense que le revenu universel est un instrument qui dit, puisque il se fonde sur le partage égalitaire, notamment de la rente liée à ceux qui nous ont précédés. Ben, tout le monde a la même chose. De François Pinault à l'héritière Bettencourt jusqu'à vous et les plus modestes. Tout le monde a la même chose. Mais après, le principe, il est simple, c'est que tout le monde paye de l'impôt, tout le monde, au premier euro gagné au-delà du revenu universel. Et évidemment, le barème de cet impôt va prendre considérablement plus, immensément plus, à l'héritière Bettencourt qu'il ne va vous prendre à vous. Tant sur les revenus que sur le patrimoine, sur lesquels il faut que la fiscalité soit aussi progressive, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle la redistribution des richesses, elle se fera par l'impôt, comme elle s'est toujours faite, et comme elle aurait dû toujours se faire, ce qu'elle se fait de moins en moins, hélas, aujourd'hui. Donc, oui, tout le monde reçoit le revenu universel, comme tout le monde est remboursé de sa grippe, mais tout le monde ne va pas payer la même chose, voilà, pour que le système fonctionne. Et il faut faire très attention à ça, hein, c'est que sans consentement à l'impôt, les riches qui ont la richesse économique, mais souvent le pouvoir politique qui va avec la richesse économique, sont aussi ceux qui obtiennent des réformes, qui sont les réformes les plus défavorables à la redistribution. Donc je pense que l'existence d'un ensemble de principes universels doit continuer à relier tous les citoyens de manière égalitaire, quelle que soit leur fortune, pour garantir ensuite que des mécanismes de redistribution efficaces existent entre eux.
Et donc, si je comprends bien, vous comptez financer ce revenu universel par donc un impôt, des impôts. Est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est le seul instrument par lequel vous le financez? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Ah bah en démocratie, oui, c'est le seul instrument. En tout cas, je vois pas bien beaucoup d'autres. Alors, c'est là où il faut être un peu maintenant, non pas créatif, mais construire un système qui soit suffisamment souple pour évoluer avec le temps. Je l'ai dit, le revenu universel, il se met pas en œuvre du jour au lendemain. Aujourd'hui, on m'oppose, mais écoutez, monsieur Hamon, c'est 500 milliards d'euros, votre truc. Bon. Mais au moment où Charles de Gaulle, puisqu'on fête le 50e anniversaire de sa mort, les communistes et les socialistes prennent le programme du Conseil national de la Résistance, créent les retraites et l'assurance maladie universelle, un régime obligatoire, on ne leur oppose pas que 75 ans plus tard, ça va peser 30% du PIB. Moi, aujourd'hui, on me dit, mais monsieur Hamon, ça va être 25% du PIB. Oui, soit, mais pas du jour au lendemain. C'est une décision comparable. Effectivement, la création de la sécurité sociale qui va monter progressivement en puissance et va être financée par des mécanismes de redistribution qui sont un impôt sur le revenu qui soit beaucoup plus progressif et qui soit universel, un impôt sur le patrimoine dont on améliore le rendement, parce qu'aujourd'hui, les inégalités de patrimoine, Chancel et Piketty l'ont largement démontré, sont les plus considérables en France. La mise en œuvre de ce que j'ai appelé la taxe sur les robots pour anticiper les conséquences de la révolution numérique, ce qu'on pourrait imaginer être la taxe sur les ressources naturelles, qui est de demander aux entreprises dont les profits privés se fondent sur l'exploitation de biens communs de l'humanité, les forêts, les sous-sols, les richesses minières, les richesses fossiles, etc., la mer, l'eau, que ces entreprises-là soient mises à contribution de manière spécifique pour pouvoir financer, le cas échéant, le revenu universel, la fameuse taxe sur les transactions financières qui n'avance pas. On voit bien donc que les ressources existent, notamment dans l'économie spéculative. Donc la question, c'est comment les mobilise-t-on et décide-t-on de les mobiliser? Mais au moment où la France fait la sécurité sociale, elle commence par faire en 45, on aurait pu lui dire « Ouh là là, mais monsieur de Gaulle, c'est un désavantage compétitif considérable pour la France par rapport à ses concurrents. » Bon. Mais oulala, monsieur de Gaulle, ça va coûter bientôt des centaines de milliards d'euros ou de francs à l'époque, ça n'est pas raisonnable. Oui, mais bon, ils ont vu le temps long. Aujourd'hui, on s'interdit de voir le temps long. On me demande de raisonner comme si le revenu universel, j'allais le faire demain. Mais non, demain, c'est pas possible du jour au lendemain. C'est par étapes, voilà. Donc, et les instruments de redistribution évolueront. Et ça, je le dis, je sais pas ceux qui vous écoutent, mais il faut qu'on se mette dans la tête, là. C'est plus possible de raisonner. Je veux dire, on se croirait sur Twitter en permanence. Mais c'est, on est dans un monde de fous. C'est-à-dire que moi, je propose quelque chose dont le but, c'est pas de... D'ailleurs, je me fous des commentaires sur Twitter sur le sujet. Ils n'ont aucun intérêt. On va se parler sur le temps long. C'est comme la Sécu. C'est un bout de la Sécu en plus, ou c'est la nouvelle Sécu à côté de la Sécu existante. Voilà.
D'accord. Bon, on a bien balayé donc ce sujet du revenu universel. Pour en savoir un peu plus, il y a donc votre livre, « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel ».
Aux Équateurs. Il faut citer. On m'a dit aux éditions Les Équateurs. Merci à eux. Et qu'on trouve dans les bonnes librairies indépendantes, parce que passer par là, par ça, ils se sont bien débrouillés. Il y a un site qui s'appelle Place des Libraires qui regroupe les librairies indépendantes, et c'est toujours mieux de passer par eux.
On mettra
eux
les références dans la description.
Que par
du
les
podcast.
Méchants géants du numérique.
Maintenant, je voudrais revenir un peu sur votre parcours. Et pour ça, on va repartir loin dans le passé. J'ai une question traditionnelle sur ce podcast qui est, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez ressenti de l'indignation? Quelle était votre première indignation?
C'est le racisme. J'ai grandi mon adolescence au Sénégal, dans un univers très, très cosmopolite. Pourquoi? Parce que mes parents m'avaient mis à l'école sénégalaise et non pas à l'école française. Au Sénégal, il y avait la possibilité d'être à l'école française avec les élites, une partie des élites locales, les sénégalaises, nationales, et avec les Français, quoi. Et m'a mis à l'école sénégalaise, et du coup, c'était très mélangé. Et j'ai grandi comme ça, et quand je suis rentré en France, j'ai découvert le racisme que je ne connaissais pas. Ou si je le percevais, mais pas comme une source de... C'était pas violent, quoi. Et là, je l'ai perçu dans des préjugés incroyables à l'égard des personnes noires ou des maghrébins. Et ça m'a mis en colère. Mais en fait, ça m'a mis en colère parce que je ne comprenais pas. C'est que c'est quelque chose qui me... qu'on puisse imaginer l'inégalité des individus selon leur origine ou leur couleur de peau me paraissait... incroyable. Et point important, c'est là que j'ai compris que l'antiracisme, ou en tout cas l'égalité, c'était un combat. Parce qu'en fait, ce que je croyais que c'était que je pensais être donné jusqu'ici, qu'on était égaux, je veux dire, je me posais pas la question. En fait, j'ai compris qu'en fait, ça n'était pas donné. Pas du tout donné, même. Et qu'il fallait se battre. Voilà. Donc, c'est là la première source de mon indignation.
Et donc, à quel âge est-ce que vous êtes rentré en France et que vous avez constaté ça?
Je suis rentré dans ma 13e année en France et assez rapidement, je l'ai constaté. Et y a toute l'extrême droite, qui est vraiment un ramassis de pauvres gens, en tout cas pour les dirigeants et les intellectuels, les idéologues, utilise quelque chose que j'ai dit quand j'étais ado. c'est qu'effectivement, j'étais dans une société au Sénégal qui était cosmopolite, et quand je suis arrivé en Bretagne, à Brest, il n'y avait que des Blancs. Et au début, ça m'a perturbé, le fait que ce soit très uniforme. Et j'ai dit, j'ai trouvé qu'il y avait trop de Blancs, c'est-à-dire au sens, pas assez de mélange. Et depuis, maintenant, l'extrême droite, je veux dire qu'ils vont encore s'en donner à cœur joie. Et là, ils trouvent qu'il y a trop de Blancs, ils vont nous remplacer. Je pense qu'ils se remplacent très bien eux-mêmes, d'ailleurs, par... quelques-uns qui ont remplacé leur cerveau par un étron, je trouvais ça comme enfant, j'avais été perturbé par l'absence de mélange. Et quand j'ai compris, bon, après on s'y fait, hein, après j'ai vécu une adolescence très heureuse en Bretagne, moi, à Brest, mais quand j'ai compris qu'on pouvait ne pas voir de noir pour certains et détester les noirs. Alors là, j'ai plus compris. Voilà, pour faire vite.
Donc ça, c'est dans le champ des idées. Vous, quel a été votre déclic pour passer donc des idées à l'action, à l'engagement concret?
Écoutez, le gros déclic qui me fait m'engager, c'est les lois de Vaquer en 1986. Ma première année en fac, quand on a passé en manif, en gros, pour faire vite, c'est le déclic. C'est l'antiracisme et les lois de Vaquer. C'est-à-dire qu'en plus, à ce moment-là, les deux se conjuguent dans l'indignation et la tristesse et la colère de l'assassinat de Malick Oussekine, qui était même pas manifestant, qui passait par là, qui se fait démolir par deux policiers des pelotons des voltigeurs qui, rue Monsieur le Prince, le tue. Il y a là un profond sentiment d'injustice et que finalement se loge peut-être au cœur de la machine étatique de mauvais sentiments, des préjugés. Donc c'est l'origine de mon engagement, c'est ces lois de Vaquer qui voulaient introduire une forme de sélection par l'argent à l'université et la violence policière contre un jeune d'origine maghrébine.
Assez vite, vous allez finir par rentrer en politique. Donc au sens classique du terme, quoi, parti, élections, etc. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce mode d'action-là? Et est-ce que vous avez déjà envisagé d'en changer?
Vous savez, je pense qu'en fait, on est gobé. Vous ne choisissez pas qui vous gobe, en fait, au début. Je sais que mon engagement aurait été à gauche, ceux qui m'ont attrapé étaient des militants très engagés à gauche, au PS à l'époque, dans une ville ouvrière, Brest, où à l'époque il y avait l'Union de la gauche. Il y avait déjà. Il y avait des courants, mais c'était en été. En tout cas, personne ne doutait que le PS à Brest était de gauche. Vous voyez ce que... Donc, ça aurait été une autre formation. Ceux que j'ai rencontrés étaient là. Ça aurait été une autre. J'aurais peut-être été ailleurs. J'aurais été dans un engagement qui faisait coïncider aspiration à la justice sociale, à l'égalité et antiracisme. Voilà. Donc, première chose, s'il y a un peu de hasard dans les premiers pas, et est-ce que j'ai pensé à en changer? D'abord, j'ai circulé entre le syndicalisme étudiant, l'engagement politique, l'action humanitaire. Donc j'ai fait un peu tout ça. Et aujourd'hui, où je fais beaucoup moins de politique, je me conçois de m'engager différemment. Là, j'ai des projets. Je fais un podcast, par exemple, pour diffuser des idées. J'ai un grand projet là que j'espère développer dans les années à venir, mais dont je ne pouvais pas vous parler là, parce que c'est trop tôt. Mais voilà, mais je vais faire des. Oui, il y a plein de manières de s'engager.
Est-ce que, en franchissant ce pas, vous vous doutiez de l'adversité à laquelle vous alliez faire face? Parce que souvent, ça peut être un frein, en fait, ce podcast dans lequel on est. Activiste, il a aussi vocation à encourager les gens qui n'osent pas encore franchir le pas à s'engager. Et l'un de ces freins, ça peut être de se dire que, en fait, je risque de ne pas faire l'unanimité. Et comment est-ce qu'on gère ça, cette adversité?
La passivité, on pourrait croire que c'est un choix confortable. D'une certaine manière, ça l'est, à condition qu'on aspire à ne laisser aucune trace, pas une trace qui soit le souvenir de vous, glorieux, sur un timbre-poste. On s'en fout, ça. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'aurais contribué, finalement, à laisser une trace sous la forme D'une contribution positive, d'un bien-être que j'aurais apporté, d'une solution que j'aurais trouvée, d'un moment de sagesse partagée, j'en sais rien. Ça, c'est mille choses. Ça peut être artistique, ça peut être social, ça peut être. Bon, bref. Donc, forcément, dans des sociétés qui sont des sociétés comme les nôtres, tout ça ne fait pas l'unanimité. Mais nous, on a la chance, jusqu'à présent encore, de pouvoir vivre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous sans que ça vous empêche de faire ce que vous voulez faire. En tout cas, en partie, évidemment, il y a plein de choses qui nous sont empêchées, mais parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas l'argent, etc. Mais en tout cas, on est libre de s'exprimer, on est libre de penser, on est libre d'essayer de tenter quoi, des choses. Après, c'est beaucoup plus difficile, hein, je ne suis pas naïf, je ne vais pas faire les bisounours là-dessus. Mais donc l'engagement permet cela. Aujourd'hui, dans les nouvelles générations, moi j'observe ça avec à la maison avec j'ai une fille qui est une adolescente là. J'observe ça autour d'elle. Il y a la question climatique, la question de l'antiracisme et la question du féminisme sont trois sujets par lesquels cette génération est en train de réinjecter. D'une soif de justice sociale dans le combat politique sous des formes parfois partisanes, parfois hors parti politique, parfois anti-parti politique, peu importe, mais je trouve ça moi hyper intéressant ce qui est en train de se passer là. Donc j'ai plutôt, moi je pense qu'effectivement on prend des coups quand on s'engage mais bon on prend plus de coups on prendra plus de coups à s'endormir, à être brutalement réveillé par les réalités et là totalement impuissant qu'on en prend à s'engager parce qu'au bout du compte, on aura toujours au moins la satisfaction d'avoir tenté quelque chose, quoi.
Et est-ce qu'au cours de vos différents engagements, vous avez parfois douté ou regretté des choses que vous avez pu dire ou faire ?
Plein ! Plein, 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 plein. Non, non, plein, 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 plein. J'ai regretté les choix que j'ai faits, qui sont des mauvais choix, d'avoir cédé à une forme d'hubris, comme disait Camus, de tentation un peu de démesure, ou d'avoir cédé à la facilité, quoi, en quelque sorte, parfois.
À quel moment vous avez...
Quand j'ai accepté d'être ministre de l'éducation de Valls, j'aurais pas dû. J'ai pas refusé, à la fois, je me suis dit, on ne peut pas refuser d'être ministre de l'éducation quand on est de gauche, et en même temps, en acceptant ça, j'ai délibérément occulté le fait que Valls ne pouvait pas être le premier ministre qui m'aurait permis de mener une politique éducative conforme à ce que je souhaitais. Et bon, c'est en même temps, l'erreur n'a pas duré longtemps. Hein. Au bout de 4 mois et demi, j'ai corrigé le tir avec Montebourg, d'ailleurs, à l'époque. Mais corrigé le tir, hélas, mais ça fait plus de dégâts que de... Mais voilà, ça, c'est une erreur, une faute de ma part. Et sinon, j'ai blessé inutilement des gens dans le débat politique. C'est marrant, vous voyez, pourtant, la personne est une personne dont je n'aime pas l'engagement, je n'aime pas la manière de s'engager, je n'aime pas grand-chose d'ailleurs de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Mais par exemple, quand j'étais porte-parole du PS, je pense qu'à des moments, j'ai tapé dur et fort. À l'époque, c'était sur Sarkozy. Et je pense qu'il y avait des choses qui allaient... Il n'y avait pas besoin d'ailleurs d'être méchant pour le démolir politiquement. Et des fois, je pense que j'ai été inutilement méchant. Voilà. Et je trouve que c'est con, quoi. Quand le débat démocratique permet de combattre quelqu'un efficacement, mais qu'on y rajoute un petit peu de fiel, en fait, ce fiel-là, je regrette des fois de l'avoir rajouté et d'avoir inutilement blessé des femmes et des hommes que je combattrais politiquement, mais bon, j'avais pas besoin de leur en mettre, les attaquer personnellement. Je pense que ça a fait perdre du coup de la valeur, d'ailleurs, à mes arguments.
Et il y a une autre question que je pose toujours dans ce podcast, c'est est-ce que vous avez eu des moments de découragement, des moments où vous avez eu envie de tout laisser tomber, en fait, d'arrêter le combat ?
Oh, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, j'ai 5 minutes compliquées.
5 minutes, c'est peu.
Ouais, mais le problème, c'est pas que ça dure. Non, mais quand je dis 5 minutes, une manière de parler. où j'ai eu besoin de me retrouver seul, vraiment seul, quelques minutes pour réfléchir à réfléchir. En fait, on réfléchit pas là, dans ces moments-là, mais pour prendre sur moi ce qui venait de se passer. C'est pas du découragement, je dirais pas ça comme ça, mais c'est l'expérience de que je trouve d'ailleurs que maintenant je suis heureux d'avoir traversé pour moi, qui est de la solitude incroyable de la défaite quand elle est violente, impitoyable, féroce, et qu'elle s'abat sur vous, aux yeux et au-dessus de tout le monde. Je resterai, mon nom restera historiquement attaché à cette déroute. Quand je dis solitude, c'est que, évidemment, j'avais mes proches, les miens, qui étaient là. Et heureusement, d'ailleurs. Mais c'est là où vous découvrez que l'engagement vous expose à des épreuves qui ne peuvent être qu'individuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne quand c'est la cata. Si, il y a quelques-uns. Heureusement, s'il y a des amis, évidemment. Mais le collectif qui fonde l'action et l'engagement, il disparaît à ce moment-là. Il est emporté avec la défaite. Et c'est vraiment le sauve-qui-peut, quoi. Le chacun pour soi et tout le monde se jette dans les embarcations, quoi. Et vous restez, quoi. Et là, vous... Donc ça, c'est un moment où, non pas de découragement, mais une épreuve qui m'a beaucoup appris, beaucoup endurci, beaucoup épaissi. Et paradoxalement, quand je dis endurci, m'a rendu plus... Je pense plus ouvert, plus soucieux d'apporter du soin aux autres. C'est marrant, hein. Je pense que je suis plus peut-être un peu plus sage, quoi.
Et comment vous remontez sur les grands chevaux du combat après?
Différemment, j'ai dit que j'étais pas candidat à l'élection présidentielle déjà, parce qu'on me pose tout le temps la question, donc je le redis partout. Parce que je pense que je suis une part du problème, donc je vais enlever cette part du problème pour qu'on trouve une solution à gauche chez les causes écologistes, sous la forme, j'espère, d'une candidature unique. Et je n'exclus personne, je n'exclus pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon, je n'exclus pas que ce soit un socialiste, je n'exclus pas que ce soit un ou une écologiste, je n'exclus pas que ce soit ni l'un ni l'autre, mais une personnalité de gauche comme Christiane Taubira. Donc je pense qu'elle ferait une belle présidente de la République, belle par les idées, évidemment, entendons-nous, belle en général, quoi, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et moi, je veux qu'on arrive à ça, et je le fais... Je ne sais pas que j'ai changé de cheval, hein, ou si, peut-être que j'ai changé de cheval, mais la direction reste la même, quoi. Le but reste le même.
Bah, merci beaucoup. On approche de la fin de cette interview. Donc, dans les trois dernières questions, vous avez choisi notamment celle du super-héros ou de la super-héroïne de fiction. Qui c'est pour vous?
Ouais. Bon, c'est pas très original, mais c'est un personnage à la fois voyageur, romantique et épris de justice. C'est Corto Maltese. Qui a été admirablement dessiné et mis en planche et en histoire par Hugo Pratt, et qui est un personnage que j'aime beaucoup, et donc j'adore la vie, l'histoire, les amours, les passions, voilà, donc, éminemment romantique.
Vous avez choisi aussi la question, après une journée d'activiste, quel est votre plat réconfort? Qu'est-ce que vous mangez pour vous récompenser ou vous réconforter? Ce qui peut faire écho à la question du découragement qu'on abordait plus tôt.
Bon, j'adore la cuisine, donc il y a plein de choses que je mangerais. La base, je veux dire, si j'avais un truc de base qui n'est pas bon du tout, qui est trop gras, mais ne faire un repas que de charcuterie, de fromage et de vin rouge, c'est bien français, mais bon. Mais ça, déjà, en soi, j'adore. Et si je devais faire un plat un peu plus... un plat préparé que j'aime, quoi... le gigot 7 heures, ça, tout simple, avec un peu de vin blanc par-dessus, quelques oignons, et pendant 7 heures, c'est tellement bon. La viande fond tellement dans la bouche que voilà. Donc, un gigot 7 heures.
Et enfin, si je vous donnais une machine à remonter le temps et que vous pouviez réparer quelque chose dans l'histoire, qu'est-ce que vous feriez ?
Oh. Bon, en fait, je me suis dit, je vais répondre à cette question, mais il y a tellement de choses que je réparerais. J'aimerais réparer l'esclavage, j'aimerais réparer la Shoah. Voilà, ça c'est. J'aimerais réparer les guerres et les génocides, déjà pour commencer, mais si je devais réparer quelque chose de j'aurais aimé réparer aussi l'issue de la commune. Bon, après, je pense que j'aimerais plus fondamentalement, si je remontais dans le temps, pouvoir réparer les conditions dans lesquelles, finalement, on a accepté que la place démesurée qu'occupe le travail et surtout... en lui prêtant les vertus de l'épanouissement là où il a aliéné et meurtri et broyé des millions de gens. Voilà, ça j'aimerais corriger ça aussi.
Eh ben, merci beaucoup Benoît Hamon pour cette interview, c'était très très intéressant.
Ben, de rien, merci à vous.
Je rappelle que toutes les références de ce dont on a parlé, votre livre, votre podcast, vos réseaux sociaux, tout ça sera dans la description du podcast. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs, dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.